Simard.
12h10, bienvenue si vous arrivez sur France Bleu Creuse, bienvenue dans la Tout Creuse, l'émission qui est consacrée au patrimoine et aux particularités creusoises. Aujourd'hui, on va revenir dans notre forêt avec Laurent Rivière de l'ENF. Laurent est là, bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui.
Le programme en trois mots?
Eh bien, nous allons parler plus précisément d'une rencontre qui a eu lieu hier entre de nombreux acteurs de la forêt et d'une manière plus générale de l'exploitation forestière, toujours dans le cadre de nos bonnes pratiques, voir un peu comment on exploite la forêt correctement, de manière à ce que tous les usagers s'y retrouvent.
Et voilà, si ça vous inspire des questions, si vous souhaitez réagir, nous parler de la forêt, forêt que vous avez ou bien de laquelle vous êtes voisin, des questions qui vous interrogent, c'est très simple. Vous nous appelez 05 55 52 37 38.
À Tout Creuse, le patrimoine creusois.
Il vient de le dire, Satchu Chem, le groupe Talk Talk sur France Bleu Creuse, 12h15.
À tout Creuse, le patrimoine creusois.
Comme vous l'avez entendu précédemment, Laurent Rivière a fait son arrivée, son entrée dans les studios de France Bleu Creuse. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Comment va la forêt creusoise?
Eh bien, elle pousse, puisque ça y est, le printemps est arrivé et on a vu une feuillaison assez tardive, mais très brutale. C'est-à-dire qu'en une semaine, tous les arbres, tous les bourgeons ont explosé et maintenant on a les nouvelles feuilles qui sont en activité pour créer les nouvelles pousses.
Alors je vous rappelle, vous êtes de l'ONF, l'Office National des Forêts, c'est la raison pour laquelle je vous ai branché directement sur votre passion, parce que j'ai l'impression que c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une passion. Quand vous nous parlez de ce que vous faites comme métier, de vos observations, on sent que c'est, voilà, que c'est quelque chose qui est profondément en vous.
C'est une chance. Chance que j'ai de pouvoir.
Mais il n'y a pas de hasard.
Ouais, mais de pouvoir avoir comme métier justement des sujets, parce que c'est ce qui justement m'intéresse dans mon activité, c'est que je peux être en contact avec des gens qui ont des domaines d'activité complètement différents, et donc ça enrichit une carrière au fil des années.
Alors, vous l'avez dit, par rapport à cette floraison ou bien ce bourgeonnement qui est arrivé un petit peu tard mais qui a explosé d'un coup, forcément, on l'a tous constaté, ça. Hein. Une semaine avant, il n'y avait rien. Une semaine après, c'était tout vert.
Oui.
C'est fréquent?
Ah, cette année, c'est spectaculaire.
Comme si la nature gardait en elle les choses qui risquaient de s'abîmer en cas de gel et que d'un seul coup, plaf.
Oui, bah, vous savez que les arbres tempérés sont programmés pour justement laisser passer les conditions hivernales et puis exploser. Et c'est vrai qu'on a eu relativement frais et puis on a eu de l'eau assez tard dans le printemps. Et ce qui fait que la nature est restée tranquille. Et puis après, bon, les fortes chaleurs d'avril ont précipité les choses. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau des arbres fruitiers, ça a été spectaculaire, parce que les cerisiers ont fleuri assez peu de temps.
Oui.
D'habitude, ça traîne. Et là, ça a été brutal, et en plus, court. Les pétales sont tombés, et c'est vrai que c'est assez spectaculaire.
Ça augure d'une bonne saison, ça, par rapport aux fruitiers?
Je pense. Alors, les fruitiers, c'est pas mon...
Oui,
je suis pas forcément super balèze en fruitier, mais je regarde quand même que la nouaison est faite. Donc ça, c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est que en matière de foresterie, on a constaté que quand il n'y avait pas d'hiver, que souvent, on a vu ça il y a à peu près 2 ans, des températures assez étonnantes, vous voyez, pas de période de gel, eh bien, les pousses des arbres étaient moins importantes. Souvent, on se dit, tiens, c'est bien. Non, quand l'hiver est marqué, c'est excellent pour tous nos arbres de France, parce que après. Ils partent vers des bonnes conditions de pousse.
Vous m'avez retiré la question de la bouche. Hein. Je comptais vraiment vous demander ce qu'était un bon hiver pour la forêt. Donc, du coup, je vais vous en faire une autre. Ben non, vous avez répondu à la question sans que je la pose. Donc, vous voyez, cette complicité que nous avons l'un et l'autre, Laurent Rivière. Donc, au niveau du travail des arbres, au niveau du travail de taille, on n'est plus sur les fruitiers d'une manière générale. Est-ce que, il est encore temps de faire des choses par rapport aux arbres ou pas?
Planter. C'est-à-dire que les propriétaires qui sont un petit peu à la bourre au niveau des plantations de Douglas, uniquement le Douglas, peuvent encore. C'est le dernier cara, jusqu'au 1er mai, vous voyez, à peu près, on dit ça, la dernière semaine pour planter. Après, ça va devenir un peu tard. Sinon, là, on va être dans des... en fin de compte, dans des travaux sylvicoles qui vont se ralentir jusqu'au dégagement contre les fougères cet été. Donc là, maintenant, la nature, les arbres, on laisse tranquille. Pourquoi? Parce que dès que vous allez les frotter, vous allez abîmer l'écorce. Dès que vous allez tailler, vous allez faire couler de la sève. Donc là, on est dans une période d'observation. On va plutôt faire du travail de limite, de travail botanique maintenant. C'est le moment d'identifier précisément les stations forestières, parce qu'on peut identifier les fleurs, les nouvelles pousses, mais on laisse tranquille les arbres jusque, on va dire, au mois de juillet, août, où on va commencer à entretenir les jeunes plants.
Alors, on parle souvent, quand vous passez nous voir, de cette forêt exploitation de sylviculture, tout simplement, mais donc avec la plantation, comme vous l'avez dit, d'arbres comme le Douglas, mais est-ce qu'on plante encore des chênes en Creuse?
Oui, bien sûr, de plus en plus.
Pour quelle raison, de quelle manière?
Eh bien, parce qu'on s'aperçoit que on est à une période charnière au niveau changement climatique, hein, et que là où avant on misait à coup sûr sur les essences résineuses qui ne posaient pas de problème, maintenant on a de plus en plus de données qui nous permettent de choisir des essences adaptées. Et une des essences adaptées pour l'avenir, c'est le chêne Cécile, pas le chêne pédonculé, hein, le chêne Cécile.
La différence entre l'un et l'autre?
Eh bien, le chêne pédonculé, physiquement, on le reconnaît parce qu'au niveau des glands, il a un long pédoncule qui part de la branche, qui va jusqu'à la cupule, alors que le chêne Cécile, le gland est attaché directement à la branche. Après, il y a quelques différences botaniques. Les feuilles sont moins grosses, mais disons que, en plus, ils s'hybrident les deux, alors c'est pas facile. Mais le chêne Cécile a plutôt un tempérament continental, alors que le chêne pédonculé est océanique et c'est un véritable soifard. Et on voit bien les gros chênes actuellement dont les branches sèchent dans le bocage et tout, c'est du chêne pédonculé. Et on est à peu près sûr qu'il ne va pas résister au climat de demain. En revanche, le chêne Cécile, lui, qui a le vent en poupe, est de plus en plus planté. Mais pour les propriétaires privés, c'est un frein, étant donné qu'il faut attendre 150, 180 ans avant de récolter un arbre. Donc, c'est toujours un peu compliqué de convaincre un propriétaire de miser sur cette essence-là. Mais dans les forêts publiques, on en plante de plus en plus.
Mais sur les propriétaires forestiers privés, est-ce qu'il y en a qui misent quand même sur des durées de 150 ans comme ça ou absolument pas?
Les passionnés, bien sûr. On est évidemment sur une recherche de rentabilité. Mais un forestier tient toujours compte du sol, de ce qu'on appelle la station forestière, c'est le terroir en agriculture. Et on a des propriétaires qui jouent la carte chêne. Alors parfois c'est le chêne français, de plus en plus ça va être le chêne rouge d'Amérique, le chêne américain qui va pousser plus vite. Donc le propriétaire il se pose toujours la question entre l'amour de la forêt, la raison au niveau du sol... Et toujours son portefeuille, parce qu'il a des charges et puis il a envie de rentabiliser sa forêt.
Autrefois, la Creuse était renommée, en tout cas quand on pensait aux arbres et à la Creuse, on pensait aux châtaigniers ou encore aux chênes. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
Oui, alors, vis-à-vis du grand public, le grand public a une réaction assez épidermique contre les résineux.
C'est ce qui m'a semblé ressentir.
Je parlais encore hier avec quelqu'un qui m'a dit « Ma crainte, c'est l'enrésinement à outrance de la Creuse. » Oh là 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 là.
Ouais, d'un de mes collègues, là?
Non, pas du tout. Et on est sur des taux, par exemple, sur le territoire du Pays de Guéret que je connais bien, hein, la Glo plus le Nord, on est sur des taux de résineux qui sont autour de 16%.
Donc c'est infime par rapport au reste.
Et qui tendent même à diminuer. C'est-à-dire que quand on coupe des peuplements mûrs actuellement de résineux, on ne les replante pas tous. Donc, c'est ce que je disais à la personne, si on montait de 16 à 20, ça serait vraiment le maximum. Or, on a tendance à stagner, voire diminuer, puisque la nouvelle forêt qui vient naturellement est une forêt feuillue, une forêt de friche. Et il est évident qu'en plus, on n'a plus de subventions maintenant pour planter en résineux, comme on a eu dans les années 50 à 70 avec le Fonds forestier national. Donc les grandes campagnes d'enrésinement, c'est fini. On joue maintenant avec ce qu'on a, et ce qu'on a, c'est du feuillu, et c'est pour ça qu'on essaye de travailler de plus en plus du feuillu. La filière bois est d'ailleurs très inquiète pour demain, parce que ces peuplements qui arrivent à maturité n'étant pas remplacés, à long terme, pour les industries creusoises, c'est problématique.
Alors, il connaît son affaire, il connaît la forêt creusoise. Si vous avez des questions à poser à Laurent Rivière de l'Office national des forêts, eh bien c'est maintenant, voici le téléphone.
À tout Creuse, au 05 55 52 37 38.
Vous là-bas, vous irez là, bâtiment 23. Toi, tu fais quoi, l'asmala? Mettez-vous par là. Toi malien, vous serez voisin. Un jour on s'est posé là. Vous toi la quoi c'est étroit, pas de charabia. C'est provisoire, on verra. 30 ans qu'on est là. L'école en bas, le tabac, deux boutiques ici. Et c'est là qu'on a grandi.
Patrick Fury, soprano sur France Bleu Creuse. Chez nous, il est 12h27.
À tout Creuse, le patrimoine creusois.
Toujours avec Laurent Rivière de l'Office National des Forêts. Laurent, on en a parlé en tout début d'émission, et même dans le sommaire de l'émission. Hier avait lieu une réunion entre professionnels et forestiers. C'est à peu près ça, non?
Et usagers.
Alors, le rendez-vous était calé entre nous justement par rapport à ça. Est-ce qu'on peut connaître tout d'abord la raison de cette réunion et ensuite on verra ce qui s'est passé, ce qui s'est dit et si ça avance ou pas?
Alors, d'abord, moi, je n'étais pas organisateur. J'étais plutôt comme un acteur de territoire. Et l'organisateur était l'interprofession, donc, qui s'appelle, en Limousin, qui a un joli nom, qui s'appelle Bois-Lim. Et cette interprofession organise régulièrement des rencontres sur les territoires entre professionnels du bois et acteurs de la forêt. C'est-à-dire, quand je dis acteurs, c'est les non-professionnels, donc essentiellement un public d'élus, mais aussi d'associations, les services de l'État qui étaient là. Et l'objectif, c'est, un, de présenter l'activité du professionnel. Donc nous, lors de cette journée, on a visité un chantier d'exploitation mécanisé avec une grosse abatteuse. Et ensuite, de débattre en fonction des différents points de vue des participants. Et l'objectif, c'est que quand on se rencontre et qu'on se parle, déjà, on fait un grand pas. On écoute les attentes de l'autre et on voit comment on peut en tenir compte lors des chantiers futurs ou alors lui dire que non, son point de vue est peut-être pas forcément raccord, juste, et que en réalité, ça se passe comme ça ou comme ça.
Donc, est-ce qu'il y a des problèmes récurrents?
Oui, bien sûr. Donc là, on était une petite trentaine autour du chantier. L'acteur économique, c'était une coopérative, hein, Alliance Forêt-Bois. Et puis, on avait les représentants du monde industriel qui étaient là aussi, avec beaucoup de monde, avec des points de vue divergents. Les problèmes récurrents, bien sûr, on les connaît. Ils sont de deux principalement, hein. Un, c'est le fait d'avoir une forêt et puis un mois après d'avoir un paysage sans arbres, un peu lunaire à la place. Donc ça, c'est la notion de disparition de la forêt, entre guillemets, du citoyen. Et puis, la deuxième chose, c'est la qualité de l'exploitation forestière avec certains chantiers qui se passent mal, voire très mal, et qui endommagent soit les infrastructures publiques, soit les abords de la forêt, soit même parfois la propriété du voisin.
Par rapport à un entrepreneur forestier, quelles sont ses obligations?
Eh bien, c'est ça. Hier, on était, justement, ce qui était bien, c'est qu'on était avec l'inspection du travail, qui était là, et qui a rappelé les obligations réglementaires. Si vous voulez, elles sont multiples, ces obligations-là. D'abord, l'obligation pour un propriétaire, s'il veut couper ses bois, s'il a plus de 4 hectares, de faire une demande auprès de la direction des territoires en disant « je vais couper des bois ». Et là, on lui donne, s'il n'a pas de document de gestion, s'il y a un document de gestion, ça c'est réglé parce que tout est dedans. Mais s'il n'y a pas de document de gestion, automatiquement, il a une autorisation exceptionnelle, une autorisation administrative de coupe qui lui permet de couper ses bois pour plus de 4 hectares. Si jamais il y a une coupe d'un hectare à ras, là, il doit s'engager à reconstituer sa forêt dans un délai de 5 ans.
Avec les mêmes essences qu'on retrouvait avant ou pas du tout ?
Pas forcément, la forêt. Donc, il peut y avoir des transformations d'essences, mais en tout cas, on avait une forêt, on doit avoir une forêt, et non pas une friche. Vous voyez ? Mmh. Ensuite, au niveau, ça c'est au niveau du code forestier. Après, au niveau du code du travail, tout chantier supérieur à 500 mètres cubes ou à 100 mètres cubes si c'est manuel, ou supérieur d'une certaine taille qui est de 4 hectares, doit faire l'objet d'une déclaration à l'inspection du travail. Voilà, c'est tout.
Parce
ça. Parce que il y a tout.
Pour la protection des salariés.
C'est exactement. Il y a tout qui se met en place. La formation des travailleurs, la protection des salariés, la connaissance du chantier vis-à-vis des gens qui sont là pour contrôler le travail. Quoi, bref, tout ça c'est très réglementé. Ensuite, pour tous les chantiers, il doit y avoir la pose d'un panneau réglementaire, avec le nom de l'entreprise, avec les sous-traitants.
Un petit peu comme on trouve pour les permis de construire.
C'est exactement ça. Avec le lieu de rencontre, les numéros de téléphone, quoi. Bref, c'est tout ça est très encadré. Il faut savoir une chose, c'est que 90%, je dis 90%, c'est probablement plus, mais 90% des professionnels sont réglo
oui.
vis-à-vis de toutes ces procédures. Mais le problème, c'est qu'on a les mêmes, le même pourcentage qu'on va avoir parmi les chasseurs, les automobilistes, et ainsi de suite. Quoi. On retrouve ce même pourcentage chez des acteurs qui s'assoient sur toutes ces règles et qui donnent une image de marque déplorable de la profession qui manque de réglementation. Quand je dis réglementation, c'est vous, demain, vous voulez vous mettre exploitant forestier, vous avez le droit, quoi.
Mais est-ce que, justement, par rapport à ces 10%, ce sont des personnes qui font ce qu'on appelle un one-shot, qui viennent faire un coup, qui disparaissent pour pas se faire repérer, ou bien est-ce qu'il y a des gens qui ont pignon sur rue et qui font partie des 10%?
Non, pas pignon sur rue. Alors, c'est extrêmement rare. Souvent, c'est ça, c'est un coup. Mais parfois, ce qui est dramatique, c'est devant l'ignorance des propriétaires, la foresterie, il faut être un petit peu au fait des choses, hein. Devant l'ignorance des propriétaires, eh bien, ils arrivent à quand même être implantés sur un territoire. Ce sont souvent des gens qui n'ont pas de 0,5, hein, ils ont un 0,6, ils ne sont pas dans l'annuaire. Ils sont malins parce que, par exemple, ils arrivent sur une commune, ils font affaire avec un propriétaire, ils le payent très bien tout de suite. Tout de suite. Et après, ils vont voir le voisin, et leur meilleur commercial, c'est le propriétaire qui a dit « Mais c'est super, il m'a payé un prix d'or tout de suite. » Et là, ils vont couper sur 4, 5, 6, et là, ils vont tout planter. Ils ne vont pas payer les propriétaires, ils vont se comporter comme des gens pas bien. Ils
ça sent la bande organisée, ça.
Ils vont... Ouais. Donc là, automatiquement, c'est la force publique qui agit, hein, y a pas de souci. Hein. Donc voilà, on a ça. Mais le problème, c'est que ça concerne une toute petite partie. Voilà. Et puis, les professionnels qui ont pignon sur rue, eux se comportent bien, parce qu'ils ont une réputation, mais ils nécessitent quand même d'être encadrés, d'où le protocole que nous, on a mis en place sur la charte forestière. Ils nécessitent d'être encadrés, et surtout pour éviter les incompréhensions, et puis pour qu'on porte à connaissance des éléments remarquables à proximité de la coupe, ça nécessite une déclaration préalable et un dialogue avant le premier coup de tronçonneuse.
Et s'il y a des questions à nous poser, 05 55 52 37 38. Vous avez été démarché par exemple par quelqu'un qui voudrait vous acheter un bois que vous avez sur votre propriété, ou vous aimeriez peut-être vous séparer soit du bois avec la terre qui va avec, hein, donc de la parcelle, ou bien simplement du bois qu'il y a dessus. Posez vos questions alors en Vierre au 05 55 52 37 38.
À tout Creuse, le patrimoine creusois.
France Bleu.
France Bleu, partenaire de la 16e édition de l'Enjambée creusoise, le dimanche 20 mai. 5 circuits de randonnée pédestre, 5, 12, 20, 30 et 45 km. Et nouveauté 2018, 12 km de marche nordique. L'Enjambée creusoise, c'est également des animations musicales, une exposition de voitures anciennes et des visites du patrimoine.
Bourganeuf accueille la 16e édition de l'Enjambée creusoise le 20 mai. Un coup de cœur France Bleu. Les infos et les inscriptions sur louchamy.com.
À tout Creuse. Didier Simard.
C'est l'heure de vous poser la question qui va vous permettre de gagner un gâteau creusois. Et puis également un très beau magazine, Pays du Limousin, magazine qui concerne la Creuse, la Haute-Vienne et bien sûr la Corrèze, avec un très très beau dossier sur Valière, une jeunesse et un dynamisme, notamment au niveau des maîtres verriers, car la commune en compte deux, mais il y a tout un tas de choses dedans. Mais pour ça, une question va vous être posée par Laurent Rivière. Laurent, on va revenir sur ce qu'on a dit en début d'émission. Il y a des idées reçues, notamment par rapport aux résineux. On a l'impression qu'ils envahissent, que les sylviculteurs de résineux envahissent notre département, mais c'est un petit pourcentage. Donc vous allez nous donner les trois chiffres de pourcentage.
Oui, tout à fait. Donc sur le territoire de la charte forestière du Pays de Guéret, je l'ai dit tout à l'heure, qui comporte l'agglomération de Guéret, la Com d'Aglo et Porte de la Creuse en Marche. Donc on a un taux de résineux qui est donc de 15%. De 25% ou de 35%.
Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est bien moins que ce que vous pouvez imaginer. Donc, 15%, 25%, bien 30% ou 35%?
35.
Vous pensez avoir la bonne réponse, vous voulez gagner le gâteau creusois et ce magazine Pays du Limousin, voici le téléphone.
À tout Creuse, au 05 55 52 37 38.
Ça tombe bien. Hymne for the weekend, d'un côté Coldplay, de l'autre Beyoncé, sur France Bleu Creuse, 12h40.
À tout Creuse.
La question était la suivante. Sur le territoire de l'agglomération, de la communauté de communes du Grand Guéret, combien les résineux prennent de territoire ou bien sont implantés? Je brouille un petit peu dans la question, mais 15%, 25%, 35%, c'est ça Laurent, hein?
Oui.
Simplement par rapport au territoire.
C'est ça, voilà, les 40 et quelques communes. Ouais.
Alors la réponse arrive de Bonnat. Bonjour Solange.
Bonjour.
Alors d'après vous, 15, 25, 35?
15.
Comment est-ce que vous le savez?
C'est au hasard.
Eh bien écoutez, le hasard fait bien les choses.
Alors moi, à chaque fois que je gagne avec vous, c'est au hasard que je joue.
Eh bien, à mon avis, vous devriez continuer comme ça. Vous avez la bonne technique, Solange. Donc, on vous offre le gâteau creusois, qui fait partie du patrimoine, le gâteau noisette, et puis également ce magazine Pays du Limousin, Corrèze, Haute-Vienne et bien sûr la Creuse. Ça vous fait plaisir, Solange?
Ah, très, très.
Et voilà, ce sont vos
cas. J'essaie de jouer au jeu de... à 11h05 pour gagner un petit maillot, mais...
Un petit maillot, vous voulez un petit maillot, vous voulez dire le polo France Bleu Creuse?
Oui, je vous... pourrais pas en avoir un, hein.
Remarquez, il n'y a que ceux qui ne tentent pas leur chance, qui ne gagnent pas. Malheureusement, j'en ai pas, je ne gère pas ça, Solange, mais je pense que vous pourrez en gagner dès la semaine prochaine, par exemple.
Oui, mais comme j'ai joué aujourd'hui, je n'aurai pas le droit de jouer.
Eh ben non, le hasard fait pas toujours aussi bien les choses que ça, Solange.
Ben ouais, je sais que maintenant, j'ai pas le droit de jouer avant 2 mois.
Bon, là, ça peut peut-être se négocier au niveau de la durée du jeu. Mais voilà, vous saviez, hein, il y avait le gâteau creusois, il y avait le magazine.
Oui, je le sais. Hein.
Mais vous avez tenté votre chance. Vous dites, tiens, on ne sait jamais, avec un petit sourire, peut-être céder.
Ouais, vous êtes tous sympas. Hein.
Merci, Solange.
Je vous écoute depuis le matin, 6h.
On sait tout ça. Voilà, on a des relevés. On sait qui nous écoute, combien de temps. Et on vous remercie, Solange, de votre fidélité à France Bleu Creuse.
Bonne journée.
Merci, bonne journée à vous. Le gâteau creusois, le magazine, ce sont vos cadeaux du week-end, Solange, d'accord? Bonne journée, merci, au revoir.
Du matin jusqu'au soir. On est bien ensemble. France Bleu Creuse.
Toujours avec Laurent Rivière de l'ONF, et puis on vous a proposé de poser vos questions. C'est ce que fait maintenant Jean-Claude qui nous appelle de Saint-Georges de la Pouge. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
On vous a fait patienter un tout petit peu, Jean-Claude, désolé. Hein.
Pas de problème.
Laurent Rivière vous écoute.
Ouais, mais moi c'est pour exprimer ma colère. Moi c'est pas une question, c'est une colère contre certains forestiers. Quand ils abattent du bois, une fois qu'ils sont passés, on croit qu'il y a eu la guerre. Ils prennent ce qu'il y a de meilleur, ils plient tout ce qui leur intéresse pas, ils les plient, les cassent, ça reste sur place. À Saint-Georges-la-Pouge, dans le coin, là, il y a pas mal de bois qui ont été coupés. Il y avait une croix dans un bois, ils ont cassé la croix. Les chemins, ils la remettent pas en état. Enfin, il y a des endroits, c'est un désastre.
Alors, ce que dit Jean-Claude, ça revient hyper régulièrement, Laurent Rivière. Hein.
Oui.
C'est vraiment le plus gros problème. Là, on est sur le mauvais pourcentage de forestiers, pas... 10%.
Oui et non. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui se comportent.
C'est pas une agression personnelle, attention.
Non, mais
il évoque.
Mais je partage son point de vue à vraiment à 100%. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que d'une part, les chantiers, surtout sur votre territoire, ne sont pas encadrés. Nous, chaque chantier d'exploitation forestière sur le territoire de la Charte forestière, mais également sur Bourgain-Neuf-Royère et les Monts-d'Ambazac, fait l'objet d'un état des lieux, des infrastructures communales, de telle manière à limiter ou éviter tous les impacts. Ce mode opératoire qu'on a créé, au début, on l'a créé sur très peu de communes. Et maintenant, on a 800 communes en France qui nous ont copié. Vous voyez? Donc, qui sert à encadrer. Ensuite, au niveau de la parcelle. Ce qui se passe au niveau de la parcelle, avec des forestiers qui vont prendre uniquement leurs produits, qui vont abattre des arbres sur d'autres, qui vont tout casser, qui vont circuler, qui vont faire des ornières, casser des croix ou ça. Souvent, on a un propriétaire qui, malheureusement, au moment de la vente de ses bois, va donner les clés, c'est très imagé, à l'exploitant forestier et lui dire, voilà, moi je vous vends mes bois, la transaction est faite, débrouillez-vous. Et là, le forestier fait les limites et tout. Et y a, le contrat de vente est parfois très sommaire. Et c'est pour ça que nous, on a rédigé un contrat de vente type qu'on a élaboré avec les professionnels. Il fait plusieurs pages. Moi, j'ai vu des contrats de vente, c'est à peine une page. Hein. C'est la société X achète le bois de M. Dupont, tel prix, c'est tout. On ne sait pas comment ça va être exploité, quels arbres ils vont être coupés, où sont les limites et tout. Alors que nous, sur le contrat de vente qui doit faire 8 ou 9 pages, tout est expliqué. Et le propriétaire peut dire, attention, vous ne prendrez que ces bois-là. S'il y a des arbres qui doivent rester et qui sont abîmés, c'est temps. Passer tel délai, c'est ça.
On comprend ce que vous dites tout à fait, Laurent Rivière, mais c'est vrai que nous ne sommes pas des pros la négociation de bois. Donc quand quelqu'un vient nous voir, on ne sait pas ce qui peut se passer.
C'est pour ça que nous, le contrat de vente, si vous voulez, je vous parlais tout à l'heure d'une certaine ignorance, mais c'est normal. On est sûr, c'est très étonnant, quelqu'un qui veut vendre une voiture, il va faire tous les sites, il va acheter des revues, il va connaître la cote de l'Argus et tout, et sa voiture, il va la vendre, mais vraiment le meilleur prix pour lui, quoi. Quand il vend du bois, le premier qui va venir, il va lui faire une confiance totale, alors que c'est une transaction commerciale. Nous, on vient à chaque fois, mon téléphone n'arrête pas de sonner, après coup. Ah, j'ai vendu mon bois, j'ai pas vendu assez cher, il y a du dégât, et ainsi de suite. Mais pourquoi vous m'avez pas demandé avant? Avant, je vous aurais communiqué le bon contrat de vente qui va bien, la liste des professionnels compagnons sur rue. Après, vous choisissez celui que vous voulez. Mais voyez, on vient souvent après, quand la bataille, elle est perdue, quoi.
Jean-Claude, ça vous satisfait ce que vous dit Laurent Rivière? Ça vous permet de comprendre un petit peu?
Ben, comprendre, oui, mais pourquoi il n'y a pas plus de contrôle, quoi, je veux dire. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens le disent, hein, c'est que c'est des exploitants forestiers comme ça, ils ont tous les droits. Ils ont tous les droits. Bon, ils reboussent le chemin plus ou moins avec de la boue. Les chemins, ils sont impraticables. Encore hier, je circulais du côté de Chénérailles. Vous avez des transporteurs de bois, là, des gros gruniers, là. Ils mettent même pas de sangle après les camions, ni rien. Enfin, ben, ils ont tous les droits. Alors moi je suis en colère parce que bon en plus tout ce qui n'est pas embarqué, vous savez qu'il reste, 4-5 morceaux de bois par-ci par-là, ça pourrit pendant des années, plein de trucs comme ça quoi, c'est pas sérieux du tout.
Mais je suis entièrement d'accord avec vous, le problème c'est que toutes les communes ne considèrent pas ce problème-là comme un problème prioritaire. Partout vous avez une démarche d'animation. Je vous l'ai dit, comme Bourganeuf-Royères ou comme autour de Guéret, vous avez des communes qui ont pris le problème à bras-le-corps. Et je peux vous dire que quand le bois il reste sur la route, le bois devient propriété de la commune. Quand le bois n'est pas, quand il y a des dégâts, c'est une lettre commandée, c'est un constat, et on se retrouve
ensemble. Mais qu'on en voit au propriétaire ou bien qu'on
aux professionnels. Aux professionnels, voilà. Tous les chantiers sont encadrés. Nous, on a plusieurs centaines de chantiers qui ont été encadrés comme ça, et je peux vous dire qu'on n'a aucun contentieux parce que entre guillemets, on se parle et ça file droit. On vient de faire appel encore cette semaine à la gendarmerie pour une coupe chez un particulier. Voilà. Si vous voulez, il se passe une chose, c'est que c'est encadré. Et ça se passe relativement bien dans 90% des cas. Après, il y a 10% des cas, c'est un petit peu musclé. On a besoin de se reparler encore plus. Mais c'est jamais allé jusqu'au tribunal. Voilà. Et il y a des élus qui baissent les bras, malheureusement, qui disent, de toute façon, on ne peut rien faire. Si on peut faire quelque chose, c'est du patrimoine public, on peut faire quelque chose. Le tout, c'est de s'en donner les moyens et de contrôler avant, après, pendant tous les chantiers forestiers.
Quand on est sur du patrimoine privé.
Alors, le patrimoine privé, c'est de l'information vis-à-vis des propriétaires. Nous, on peut diffuser ces contrats de vente partout, puisqu'ils ont, il y a rien de secret. Ils ont été négociés avec les syndicats des sieurs industriels et des forestiers privés. Donc, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui est public. On le communique à tout propriétaire qui nous demande. Il est en distribution libre dans une cinquantaine de mairies. Donc, allez-y, profitez-en, quoi. Mais après, ce qui se passe sur la parcelle, c'est strictement privé. C'est une transaction. Quand vous vendez votre voiture, Didier, je ne viens pas derrière vous en disant c'est pas bien, vous ne l'avez pas vendu. Ça vous regarde. Et donc, automatiquement, toute transaction privée, nous, on n'a pas à intervenir.
Jean-Claude ?
Non, mais c'est très bien. Mais la commune de Saint-Georges, je m'occupe aussi des chemins. Parce que vous parlez des bois privés, mais après, pour le sortir, ils utilisent bien des chemins communaux. Hein. C'est là le problème.
Qui font l'objet, chez nous, qui font l'objet d'état des lieux, avant, après, avec obligation de remise en état. Pas forcément, comme vous dites, remettre la boue dans les ornières, mais faire en sorte que le chemin soit au moins aussi bien qu'avant.
Merci d'avoir appelé Jean-Claude.
Je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions. Bonne journée, bon week-end. Laurent, on se retrouve dans moins de 3 minutes.
France Bleu Creuse.
Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant. Et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Formidable, Stromae sur France Bleu Creuse, 12h53.
À tout Creuse, le patrimoine creusois.
Dans quelques instants, on va retrouver Marie en balade. Pour le dernier rendez-vous de la semaine, nous allons partir à Bourganeuf, au musée de l'électrification, avec Marie et son invité. Mais là, nous revenons avec Laurent Rivière pour le dernier rendez-vous. Faire la synthèse, on avait encore plein de choses à dire, Laurent, il faudra revenir.
Oui, mais vous voyez, la question de votre auditeur...
Ça, c'est récurrent.
Oui,
parce
bien
que ce qu'il vous dit, moi, je le pense pareil. Hein.
Mais bien sûr, c'est pour ça que... franchement, nous, moi, je pourrais me déplacer dans toute la France pour parler de cet outil qu'on a mis en place, qui consiste à encadrer les chantiers. On n'est pas là pour embêter les professionnels, on est juste là pour leur dire, attention, quand vous êtes sur des infrastructures publiques, vous devez vous comporter de telle et telle manière. C'est pas évident, dans un premier temps, de les convaincre. Ensuite, ça a été très facile. Et après, il faut se dire une chose, c'est que temporairement aussi, on a des dégâts. Parfois, eh ben, le chemin, on sait qu'il va être bousillé.
Mais enfin, quand on a des ornières d'un mètre de profondeur...
Eh ben, parfois, si, le tout, si c'est... Alors, on essaye de trouver un plan B, pour beaucoup. Et puis, parfois, on dit, bah, le chemin, il va être mort. Et là, le professionnel s'engage, il dit, OK, le chemin, il va être mort, mais vous allez voir, après, le chantier sera nickel.
D'accord.
Voilà. Mais c'est pas maintenant qu'il faut le remettre en état. Il faut le remettre en état quand ce sera bien sec, qu'il fera bien beau et ainsi de suite, quoi. Et donc, à ce moment-là, on met des panneaux en disant ce chemin sera remis en état et ainsi de suite, quoi. Donc voilà. Le problème, c'est ça. C'est l'encadrement des chantiers pour éviter les dommages au niveau des infrastructures.
Moi, ce que je vais retenir de tout ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut mieux vous appeler avant que pendant ou encore qu'après. Donc, est-ce que vous avez un téléphone où on peut vous joindre?
Oui, bien sûr. Donc,
vous filez votre 06?
Non. 05 55 52 31 56.
05 55 52 31 56, c'est bien ça, Laurent?
Oui, à partir du 14 mai. Donc là, je prends un peu de repos.
D'ailleurs, je signale que vous êtes en vacances aujourd'hui. Merci d'être passé nous voir. On vous dit à très bientôt.
À bientôt.
Merci pour
avec
tout.
Plaisir.
Au revoir.
Allez, France Bleu Creuse.
Direction Bourganeuf avec Marie Brocry.
France Bleu Creuse, Marie en balade.
Et nous terminons cette semaine toujours au musée de l'électrification de Bourganeuf. Non, nous n'avons pas bougé avec Jean-Michel Verdier, le président des amis du musée d'électrification de Bourganeuf. Et si je donne votre titre en entier aujourd'hui, Jean-Michel, c'est parce qu'on va parler un petit peu de cette association. Quand est-ce qu'elle a commencé à s'occuper du musée?
Écoutez, l'association, elle a été créée en 2008 ou 2009, je n'ai plus en tête la date exacte. Elle a été créée à l'occasion de mon départ de la municipalité. Enfin, j'exagère un peu le trait, mais je travaillais ici avant, donc partant. Les élus ont souhaité qu'on réunisse tous ceux qui avaient travaillé de manière à créer aussi une mémoire de cette histoire, puisque j'avais eu l'honneur de piloter le projet et d'animer ce musée pendant des années. Donc l'idée, c'était ça. Donc on a réuni tout un tas de gens qui ont travaillé sur le projet, des gens qui font de l'électricité dans le coin, il y a beaucoup de producteurs de microcentrales, ainsi de suite, des collègues d'autres musées scientifiques et techniques, on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y en a d'autres en Limousin. Et l'objectif de l'asso, c'était d'appuyer la mairie, de continuer à faire des recherches et surtout d'animer un réseau. Le musée d'électrification de Bourganeuf fait partie du réseau national des musées techniques animé par le Conservatoire national des arts et métiers et le musée des arts et métiers. Donc je représente en quelque sorte la mairie mais l'association. On fait aussi partie de la fédération des associations d'amis de musées. Aujourd'hui, on n'existe pas tout seul. Quant au Limousin, il faut préciser qu'il y a plusieurs musées maintenant qui relèvent de l'histoire technique ou l'histoire scientifique. Le musée Gay-Lussac à Saint-Léonard-de-Noblat et le musée d'Arsonval qui se trouve à la Porcherie à la frontière de la Corrèze. Donc il y a tout un tas de sites depuis une vingtaine d'années qui se sont développés sur l'histoire des techniques, l'histoire technique et scientifique. Il n'y a pas que des musées d'art.
Pour revenir sur le fonctionnement du musée ici, quand la mairie va ouvrir le musée cet été, vous allez vous-même peut-être ou d'autres personnes et adhérents de l'association être les guides touristiques du musée?
Bon, pas directement parce qu'il y a quelqu'un qui fait les visites. Par contre, en général, je fais la formation. Voilà, j'accompagne. Nous faisons au niveau de l'asso les journées du patrimoine tous les ans depuis des années, donc avec des visites guidées. Quand il y a des manifestations, dans la mesure de la disponibilité des bénévoles, on peut y participer, voire les organiser. On a déjà été sollicité. L'idéal serait que nous puissions avoir plus de temps pour essayer de retravailler le projet, puisque aujourd'hui, enfin, on y a déjà réfléchi. Hein. Le musée devrait peut-être connaître une deuxième jeunesse. Hein. Depuis 1998, on peut considérer qu'on pourrait revoir des choses.
Jean-Michel Verdier, on vous remercie de nous avoir accueillis ici du côté de Bourganeuf cette semaine.
Mais moi, je vous remercie aussi de m'avoir écouté. Moi, je donne rendez-vous à tous ceux qui sont disponibles pour venir l'été. Et je précise que pour les groupes hors saison, donc c'est uniquement les groupes, c'est sur réservation auprès de l'office de tourisme ou de la mairie.
À bon entendeur. Écoutez, pour Marie en balade, c'est très simple. Si vous voulez réécouter un petit peu au bout de ce reportage, n'hésitez pas, vous le retrouverez sur francebleu.fr. Bel après-midi à tous.
France Bleu Creuse. France
Bleu. Dans moins de 2 minutes, il sera 13h, l'heure d'une heure en France. Alors Frédéric Le Tournier, le programme du jour.
Aujourd'hui, nous évoquons des découvertes archéologiques lors de travaux du tramway à Strasbourg. Ensuite, on parle du chabichou du Poitou, un fromage AOP depuis 1996. Et on termine avec l'opération Une Rose, un Espoir, une opération de motards au profit de la lutte contre le cancer. Je vous dis à tout à l'heure.
Merci, à tout à l'heure. Et avant de vous retrouver, nous ferons un point sur la météo.
À tout Creuse sur francebleu.fr.